Qu'on était venu vous parler de la prière ici en avant. Et c'est ce que je veux faire encore ce matin. C'est vraiment un sujet que j'ai à cœur. Peut-être juste avant de commencer sur le sujet que j'avais, je voulais juste finir sur une petite anecdote que j'avais. Je trouve toujours surprenant comment Dieu agit. Hier soir, on était à... je fais ma confession auprès de Jocelyn Aubu. J'étais au Festival de Blues hier soir, à 9h30, au concert de Johnny Lang qui était là. Et je trouve vraiment intéressant quand on regarde, donc c'était un prodige de la musique au niveau du blues, au niveau de la guitare, au niveau des compositions. Sa voix est vraiment exceptionnelle. Et puis, à 7 ans, il commence à composer ses propres musiques. À 15 ans, il enregistre son premier album. Et il est numéro un mondial dans la vente pour un premier album. Il est dans les 50 meilleures ventes, toutes musiques confondues, artistes confondus. Cette année-là, il est tellement connu à 15 ans, il fait la première du show des Rolling Stones. Donc vraiment un homme, vraiment un talent exceptionnel. Et puis, avec le prestige, le fameux, vient l'argent, la célébrité, la drogue, suivi, l'alcool, et puis en 2000, donc il est né en 81, en 2000, il se ramasse un peu au bout du rouleau, et il décide de faire demi-tour. Et il écrit un nouvel album qui s'appelle « Turnaround », qui veut dire simplement « demi-tour », où est-ce qu'il donne sa vie à Jésus. Et il était hier en train de chanter devant tout le monde, devant la foule à Trois-Rivières, en donnant un peu des brides de son témoignage de comment il demandait des choses à Dieu. Donc, vraiment une chose intéressante. Maintenant, il a 36 ans, il est marié, 4 filles. Et, c'est des choses, des mystères de Dieu qu'on se demande parfois comment on fait pour rejoindre parfois des célébrités, des personnes de la monarchie, des personnes qu'on n'a pas accès, mais Dieu, lui, il n'a pas de limite. Et il a son plan pour chaque personne. Il a un plan pour vous ce matin. Et c'est ce que je vous encourage ce matin. Moi, je suis très stressé. Ma voix peut chiquer un peu. c'est pas mon plaisir d'être ici devant, mais une nécessité, je pense. Mais je pense que Dieu a un plan pour vous ce matin. Et il y a un plan pour chacun de nous. Et dans tout ce que je vais dire, moi, je suis juste là pour transmettre un message que j'ai essayé de préparer. Je vais essayer de pas être trop proche de mes notes aussi, parce que je veux suivre aussi, puis c'est enregistré, donc on essaie de faire moins d'erreurs. Mais il y a quelque chose de spécial pour vous ce matin, chacun de nous. Il y a une parole de quelque chose que je vais dire, que c'est quelque chose que Dieu a préparé pour toi spécialement, pour ton cœur, que Dieu a besoin de te communiquer ce matin, que tu as besoin d'entendre ce matin. Et je vous encourage de le noter, d'en prendre note, de dire « ça c'est vrai, ça c'était pour moi ce matin, ça je veux le retenir, je veux que ça change quelque chose pour moi. » Et c'est comme ça chaque matin. Dieu a établi vraiment une régularité dans l'Église parce que chaque semaine, on a besoin de revenir à Lui. On a besoin, c'est Lui qui est la source de la vie, hein? C'est Lui qui est le chemin. C'est ce qu'on va voir ce matin là-dessus. Donc, ce matin, je désire vous encourager simplement, vous encourager à la prière, dans votre cœur, de manière personnelle, tout seul, en Église, en groupe. Il y a beaucoup de manières de prier. Et que vraiment, comme Jésus dit, que mon Église soit une maison de prière pour les nations. Et on va revenir sur ce verset-là un peu plus tard. Moi, personnellement, je suis pas un super prieur. Donc, je suis pas là pour vous montrer comment je suis un super prieur. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la prière, la puissance de la prière, la foi à travers la prière. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Je vais essayer de pas vous ennuyer non plus. J'ai une heure devant moi pour vous endormir en une heure. Il y a quatre sujets, je commence à l'envers, hein, je vous dis qu'est-ce que je ne veux pas parler. Il y a quatre sujets que je ne veux pas aborder, et le premier, c'est la toute connaissance de Dieu, l'omniscience de Dieu. En effet, pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je demande des choses à Dieu? Il connaît déjà tout. Il connaît le futur, il sait ce que je veux, il sait ce que j'ai besoin, il sait mieux que moi qu'est-ce que j'ai besoin. Pourquoi je prie? Hein? Donc, il y a toute une prêche au complet, peut-être même une série de prêches à faire là-dessus, et je ne veux pas aller sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très bien, très complexe. La prière change-t-elle la volonté de Dieu? Une autre prêche au complet. Est-ce que moi, en tant qu'humain, est-ce que Dieu n'a pas déjà tout prévu d'avance? Est-ce que moi, en tant qu'humain, j'ai une possibilité de changer la volonté de Dieu? Et encore une fois, il y a des textes là-dessus bibliques qui sont intéressants à aller chercher, et il y a des notions intéressantes à aller chercher là-dessus. Et puis, je veux pas non plus aller sur les prières qui sont qui aident au changement intérieur. On a la prière cœur à cœur ici qui est dite comme ça. Et c'est une prière qui est peut-être dans mes préférées, c'est cette sorte de prière-là de changement. Peut-être un jour on pourra en reparler, mais c'est pas non plus, je veux pas aller là-dessus. Je veux vraiment plus faire aujourd'hui vous encourager à la prière et juste faire un peu une vue d'ensemble. Et je me demandais toujours dans ma tête comment est-ce que je vais construire. J'ai beaucoup de difficultés parfois à être. J'ai beaucoup d'idées, mais à les synthétiser et à donner un ordre. Mais je vais simplement suivre un plan très de base. Je pense que c'est... Comme introduction, on va venir après sur comment... comme introduction, je veux vous parler de la Wikipédia. Donc, une source d'information très... large. Tout le monde a le droit d'écrire dessus. Et c'est juste intéressant de voir la définition qu'il y a sur la prière sur Wikipédia. Et donc, la prière est un acte codifié ou non. Donc, codifié, qu'il y a un processus ou pas de processus, qu'on est libre de dire ce qu'on veut, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu, ou à une divinité, ou à un être désigné, comme médiateur. Je trouve intéressant, la notion de médiateur est reprise par cette définition-là, de Dieu ou de la divinité. Ensuite, on voit trois types de prières intéressantes aussi. C'est intéressant qu'il ait sorti. Donc, on a la prière d'intercession, la prière de confession et la prière de gratitude. Intéressant, c'est des termes qui sont repris aussi bibliquement, on le voit dans Timothée. Et elle est parfois présentée comme une attitude intérieure méditative quand elle ne contient pas explicitement de requête et cherche alors à produire un sentiment d'unité avec Dieu ou de la divinité. Je trouve ça aussi intéressant, cette dernière notion, de dire, écoute, on n'a pas besoin tout le temps d'avoir de paroles puis de déblatérer des choses. Parfois, on peut avoir un cœur en prière ou une attitude de prière et de vouloir chercher comme ça à communier avec Dieu, à être en communion avec Dieu. Je trouve qu'il y a deux notions principales qui sont absentes dans cette définition-là. Il y a une notion vraiment cruciale dans le milieu évangélique et le milieu biblique. Il n'y a pas de notion de relation avec Dieu. Il n'y a pas de notion de communion, d'interaction avec Dieu. Et il n'y a pas de notion d'intervention de Dieu. Tu pries, mais tu ne sais pas s'il va agir, tu ne sais pas s'il va changer quelque chose. Et je trouve que dans la définition, et on voit un peu le côté justement relationnel qui manque là, dans cette définition-là, qu'on n'a pas, alors que dans la prière et au niveau biblique, on voit énormément d'intervention divine et de relation avec Dieu. Dieu communique avec sa créature, dont ce que nous sommes. Nous sommes sa créature. Aujourd'hui, donc, je divise ça comme ça. Sujet de prière, à qui? À qui est-ce qu'on prie? Ensuite, quand prier, comment prier, et puis finir par un petit temps de prière très court que je veux avoir avec vous. Je vous invite alors, avant de rentrer dans le sujet, à prier avec moi, à fermer vos yeux, qu'on puisse remettre ce temps à Dieu. Seigneur Jésus, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tu es le prince de la paix et le monde a besoin de ta paix. L'Église a besoin de ta paix. Moi aussi, j'ai besoin de ta paix. Seigneur Jésus, on se présente devant toi aussi avec toutes nos fautes et tout ce qu'on est. Même ce matin, on a fait des erreurs contre toi, des péchés. Et je veux t'en demander pardon. Accorde-nous, Seigneur Jésus, ta paix ce matin par la foi que nous avons en toi. Accorde-nous cela dans ta grâce. Accorde-moi, s'il te plaît, ton Esprit Saint et ta sagesse pour enseigner ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Je désire donc ce matin vous encourager simplement à la prière. Et donc, on commence par ceci, à qui? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui l'affirme, c'est lui qui le dit. Il est le seul médiateur. On le voit dans beaucoup de versets. J'aime cette petite notion qu'il donne, qu'il est le chemin. Juste pour vous raconter une petite anecdote, j'étais en France avec un ami en 99, et puis on était dans une famille très typique française dans la France profonde, et il était tard, on soupe tard le soir là-bas, et on avait peut-être 15-20 personnes à table, il y avait d'autres personnes qui étaient invitées, il y avait plein de fromages sur la table, et mon ami québécois demande au monsieur qui est là, il dit « Est-ce que vous avez quelque chose de vraiment typique, on voudrait manger quelque chose de typique français ?» Est-ce que vous avez quelque chose de vraiment, là, tu sais, que c'est votre région, c'est vous qui avez ça, là, puis c'est Mathieu Fortin qui était avec moi, et il y a moyen de mettre ça très émotif. Et puis, finalement, le monsieur, il avait une grande barbe, c'est un monsieur âgé, cheveux blancs, et puis son fils est à côté de nous, avait 20 ans, comme nous. Il se tourne vers son fils et lui dit, « Va chercher le fromage. » Là, tout de suite, dans ma tête, ça n'a pas pris une seconde, j'ai dit « Oups, je pense qu'on a fait une erreur. » Et comme de fait, le fils est revenu avec 3 morceaux de fromage, moi, Mathieu et le père, et les 20 autres personnes n'en voulaient pas. Donc, malgré qu'il y avait plein de fromage, le père n'a pas utilisé un nom. Il a dit « le fromage ». Et je trouve ça intéressant parce que Jésus fait un peu la même chose. Il dit « Je suis... » le chemin, la vérité. Il dit aussi dans d'autres passages, « Je suis la porte ». Donc, il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de chemins. Mais Jésus sous-entend automatiquement qu'il est le chemin. Oh, pardon. Dans Éphésiens 3:13, on voit aussi, nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je trouve ça aussi intéressant dans cette version-là, on a le mot « la liberté ». Et on prend souvent pour acquis la liberté. Et je trouve que toutes les religions qu'on étudie, toutes les religions du monde, ils prennent toujours pour acquis que Dieu veut t'entendre, Dieu veut parler avec toi. Mais qui vous a dit que Dieu voulait t'entendre? Qui t'a dit que vraiment il voulait te voir? Est-ce qu'il n'a pas créé peut-être plein d'autres univers ou peut-être il est ailleurs? Et juste pour donner un autre exemple, on fait de la poterie à la maison. On a un four qui monte à 2500 degrés Fahrenheit. On fait de la porcelaine avec les enfants. Mais tout ce qu'on fait avec nos mains, imaginez si à un moment donné, je ne sais pas si vous avez tricoté des choses, fabriqué des objets, réparé une auto, construit une maison. Imaginez si tous ces objets-là commencent à vous demander des affaires. À un moment donné, vous diriez, écoute, la vaisselle, je vais la casser parce que là, elle commence à me parler, là je suis tanné. Là. Donc, on a pris pour acquis, tout le temps en tant qu'humain, que Dieu voulait nous entendre, toutes les autres religions, mais ce n'est pas un acquis. On ne peut pas le prendre pour acquis. Mais par contre, le verset nous le dit. Si on revient au verset, il le dit. Nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté d'y aller. On peut aller tant qu'on veut. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est une liberté qui a été acquise à un grand prix. C'est une liberté qui a été acquise par Jésus, par son sang sur la croix. Mais c'est une liberté qu'on peut avoir gratuitement. On peut avoir accès à Dieu gratuitement, facilement avec Dieu, simplement par la foi, en sachant que lui a payé pour nos fautes. Lui, il y avait comme un mur immense. C'est comme une fenêtre immense, blindée, qu'on voit même à travers, flou un peu. Et Dieu était de l'autre côté. On avait très peu d'input de la part de Dieu. Et tout d'un coup, il y a cette porte qui a été construite à travers ce mur-là. Et enfin, on a accès à Dieu à travers Jésus. Il faut y aller par la foi. Donc, c'est pas une recette magique, c'est pas une formule magique, il n'y a rien de secret là-dedans. Simplement, par la foi, on peut comme ça avoir accès à Jésus. Je continue plus loin. Dans Jean 14, 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Encore une fois, on voit que c'est toujours par Jésus qu'on fait les demandes à Dieu. Et il y a une notion qui est là, qui est très importante, c'est pas le fait d'avoir une prière très fervente. c'est pas le fait d'avoir un cœur complètement dans l'émotion de la prière, ce n'est pas des paroles particulières, une formule magique, c'est pas ça qui va faire la différence entre est-ce que Dieu va m'écouter ou Dieu va pas m'écouter. Est-ce que Dieu va agir ou Dieu va pas agir? Est-ce que qu'est-ce que je demande c'est trop grand ou est-ce que c'est par trop hors norme? Non, c'est simplement par qui on le fait. Donc, ce n'est pas la prière elle-même qui est agissante, mais c'est pas la prière elle-même qui est agissante, qui fait la puissance, mais c'est la foi, la confiance qu'on a dans la puissance de Dieu. C'est lui qui est la source de la puissance, c'est lui qui est la source de l'action, qui donne l'action à la prière. Je l'avais noté ici, donc c'est ça. Ce n'est pas la ferveur de la prière qui rend la prière agissante, mais c'est par qui nous faisons la prière. C'est notre foi dans la grandeur de Dieu qui fait la différence. Le point suivant, c'est le quand. Matthieu 26, 26. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples, et en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Quand j'ai lu ça, moi, le premier mot qui m'a flashé, c'était pas toute la prière, et tout ce qui est dit, c'est le « pendant ». Parce que quand j'étais petit, depuis tout le petit, moi, c'était comme, je sais pas si vous avez vu « La petite maison dans la prairie », là. Les années 70, années 80, là. Donc, ils commençaient toujours le repas en priant en premier, puis après ça, ils mangeaient. Puis, tu sais, quand on était petits, nous, dans notre famille, c'était vraiment important. Tu touchais pas à la nourriture tant que tu n'avais pas prié. Mais là, je lisais ça, puis là, c'était pendant qu'il mangeait, il s'est mis à prier. Là, je disais, oh, c'est, c'est particulier. Puis, mais c'est une chose qui était importante. C'était une marque de commerce, comme on dit, là, de Jésus, parce que même les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu comme ça. Hein. Ils étaient avec lui, ils ne le reconnaissaient pas. Tout d'un coup, quand il se met à séparer le pain, wow, là, ils ont comme allumé, hey, c'est Jésus. Donc, c'était vraiment une marque de commerce qu'il avait. Il prenait le temps à chaque fois de prier quand il y avait le pain, qui coupait, qui rompait le pain. C'était à ce moment-là que Jésus avait décidé de faire sa prière. Et puis, c'était quelque chose qui était marquant pour les disciples. Oh, pardonnez-moi. OK. Ah, trop vite. Luc 6, 12. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit pour prier. » Dans ce verset-là, moi, ce qui me marque, c'est bon, il y a une notion de toute la nuit. Je n'ai pas passé toute une nuit à prier. J'ai dû prier parfois longtemps durant la nuit et tard dans la nuit, mais jamais toute une nuit à prier. Mais Jésus ne l'a pas fait une fois. Hein? Il l'a fait de nombreuses fois. Et qu'est-ce qui est intéressant à noter à ça, c'est que Jésus était Dieu. Jésus était 100% Dieu et Jésus était 100% humain. Mais malgré ça, tout son côté humain lui demandait de prier. Puis moi, je me suis posé cette question-là, et en fait, j'ai pas tout à fait de réponse. Pour pas dire, je n'ai pas de réponse. Il prenait énormément de temps pour prier. Pourtant, il n'aurait pas eu besoin. Il pouvait avoir une communion ou une communication peut-être différente avec Dieu, mais non. La notion biblique est tout le temps très claire que lui prenait beaucoup, beaucoup de temps à prier. Et il a l'air d'être la personne de ce que je lis de sa vie, qui était la personne qui a le plus prié de sa vie. J'ai lu des livres parfois sur des personnes, j'ai pas lu beaucoup de livres, là, mais en tout cas, j'ai lu des livres sur des personnes, des missionnaires, Hudson Taylor ou des grandes personnes, etc. Puis on voit qu'ils avaient des vies de prière importantes, mais jamais autant que Jésus. Jésus, très, très souvent, beaucoup de passages montrent de comment il priait. Et c'était souvent des très longs moments, seul, à part, et même dans la tentation, on voit qu'il est longtemps à part et qu'il prend du temps pour communiquer avec Dieu. Donc, c'est, je pense, pour nous un exemple. Si lui a eu besoin de tellement prier, mais en même temps aussi, regardez ce qu'il a fait, regardez les agissements extraordinaires qu'il a fait. Donc, on voit qu'il y avait un lien là avec sa prière, sa vie de prière, sa vie, sa capacité à passer à travers tout le plan de Dieu que Dieu avait pour sa vie, qui était sûrement lié à tous ces temps qu'il prenait à prier. Matthieu 6, 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le contexte de ce passage-là, c'est un contexte où Jésus enseigne sur l'hypocrisie. Et donc, il veut insister sur le fait, essaye de ne pas te mettre en avant et d'être au coin de la rue à prier les bras dans les airs. Donc, il met un contexte de dire, bien, fais ça discrètement. Mais en même temps, on voit qu'il y a une notion de privé, d'intimité, de communion avec Jésus. Où est-ce que vraiment on peut être à part, tout seul, et puis lui, vous en faites pas, il est là, il t'entend. Au bureau, on essaie de prier pas mal tous les matins quand on commence la journée, et on s'amuse à prier dans le coffre-fort. On est dans une ancienne banque, il y a des murs de 20 pouces, de béton armé, mais c'est un signe de foi qu'on a décidé. Les autres personnes dans le bureau savent, on dit tout le temps « OK, on s'en va dans le coffre », ils savent très bien qu'on est dans le coffre pour prier, et c'est un signe de foi que les prières passent malgré qu'il y a, 20 pouces de béton armé. On est très conscient que on est avec foi, on a l'assurance que Jésus nous entend, Dieu nous entend. Même si on est là. Il y a deux sortes de prières que moi j'ai utilisées personnellement qui m'ont fait progresser, Et la première, c'est ce que j'ai baptisé moi-même la prière du paresseux. C'est un titre personnel, j'ai pas vu ça nulle part. J'en prends le blâme qui vient avec. Mais j'ai commencé à 16 ans à prier de manière plus régulière. Et c'était je me réveillais, donc il y avait mon réveil matin, et moi je suis un matinal. Donc il y en a qui peut-être qui pourraient pas faire ça, parce que moi j'arrive à éteindre mon réveil, je me rendors pas. Mais il y a du monde qui, malheureusement, s'il ferait ça, là, il passerait tout droit. Là. Mais c'était pas mon cas. Alors moi, mon réveil sonnait, je le fermais, et je trouvais que mon lit était très confortable. Mon lit était chaud et doux, alors je voulais pas me lever, et donc j'étais paresseux, et alors je trouvais une bonne raison de dire, ben écoute, je vais joindre l'utile à l'agréable, je vais trouver une raison pour rester au lit, et donc je prenais le temps de fermer mes yeux simplement pour prier. Mais ça a permis, je pense, à vraiment développer mon temps et ma communion avec Dieu, et de voir Dieu agir, et de prier pour une chose en particulier, puis là, durant la journée, on voit l'agissement de Dieu, mais c'était fait de manière vraiment quotidienne. Et je vous encourage à trouver peut-être des formules qui vous fit, qui fonctionnent pour vous. J'avais développé pendant ces années-là aussi un calepin de prière où est-ce que j'écrivais les requêtes en avant, puis de l'autre bord, j'écrivais les remerciements quand les requêtes étaient répondues. Et pour prendre le temps de remercier Dieu. Donc, il y a différentes choses que j'ai pu développer, et je pense que c'était une base que Dieu a permis dans ma vie pour pouvoir avancer au niveau de la prière. J'ai aussi la prière que j'aime. Bon, j'ai pris le temps parfois pour enseigner. J'enseigne aux adolescents les dimanches matins, et je leur ai pris le temps de parler de différentes sortes de prières. Mais une autre sorte que moi j'avais personnellement que j'apprécie, c'est quand je suis tout seul en auto, surtout sur l'autoroute, quand il n'y a pas de feu rouge, parce que parfois je deviens très émotif dans mon auto. Et là, tu te mets à parler tout seul. Tu veux pas que les autres te voient. Et non, mais j'ai passé tous les moments, toutes les émotions dans mon auto, à prier Dieu, à parfois pleurer, à parfois crier à Dieu. Donc, c'est des moments où est-ce que j'ai vraiment, c'est intime avec Dieu. Il n'y a personne qui m'entend. C'est chez moi, parfois, le son peut passer à travers la porte. Tu te laisses pas aussi lousse que je peux me laisser lousse dans mon auto. Ou est-ce que là, je peux vraiment parfois déverser des choses que je vis à Dieu. Et de le voir chaque fois agir, de le voir répondre, c'est vraiment une saveur exceptionnelle. Une autre chose qui est très importante à Dieu que je veux vous rappeler, mais aussi vous rassurer, c'est que Dieu répond selon sa grande science, et dans un mystère que je ne comprends pas, Dieu répond tard. Et je sais pas, je l'ai ici, là. On l'a ici. Vous voyez, Daniel, on a le livre de Daniel, pour ceux qui sont moins familiers. Daniel était un homme qui priait, qui était un juif, et il priait trois fois par jour, matin, midi, soir. Il prenait le temps, il ouvrait ses fenêtres, montrait dans sa chambre supérieure, une chambre haute, qu'il gardait. Il s'était destiné spécialement un coin de prière, et on voit beaucoup de notions, même dans les films, tout ça, de gardez-vous un coin de prière, quelque chose qui est vraiment votre lieu intime. Ça, vous savez que c'est là, quand vous êtes là automatiquement, vous savez que vous parlez avec Dieu. Et Daniel, lui, faisait ça dans cette chambre haute. Et puis, Daniel a été accusé à tort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux, peut-être il y en a qui sont moins familiers avec cette histoire-là. Il a été accusé à tort de prier un autre Dieu que le Dieu de où est-ce qu'il était. Il était captif en Syrie. Et puis, il devait prier uniquement le roi et il ne l'a pas fait. Et puis, il a été pris en flagrant délit de prier encore vers Jérusalem, une autre personne que le roi. Mais mettez-vous quelques minutes dans sa peau. Okay? On prend quelques secondes de se mettre dans sa peau. Okay? Là, vous priez, vous faites ce que Dieu veut. Et vous avez vu Dieu agir de manière extraordinaire, parce que Dieu, Daniel, on sait qu'il avait des visions et des choses extraordinaires avec Dieu. Et là, vous êtes là, vous avez fait la volonté de Dieu, vous avez prié Dieu, et là, vous vous faites pogner. Et là, finalement, bon, en découle que là, vous êtes traîné devant le roi, et là, c'est sûr, tu pries dans ta tête, tu dis « Seigneur, fais quelque chose, là, parce que là, je sais pas si les gars sont crinqués, mais ils ont l'air crinqués pas mal contre moi, tu sais. Fait que là, fais quelque chose, Seigneur, interviens. » Mais Dieu fait rien. Étape d'après, il se ramasse en procès avec le roi, et puis là, le roi essaye de le sauver parce que le roi l'aimait bien, mais là, ses accusations sont très grosses, et puis la loi a été écrite que le roi avait pas le pouvoir d'aller contre ça. Encore une fois, d'après moi, Daniel devait prier, dire « Seigneur, fais quelque chose, parce que les gars sont crinqués pas mal. » Puis c'était déjà écrit dans la loi ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer s'il était condamné, s'il était jeté dans une fosse de lions? Puis les lions étaient exprès affamés. On ne s'amusait pas à les nourrir trop, pour que quand tu descendes dedans, que se passe ce qui devrait se passer. Mais encore une fois, il devait prier, il disait, Seigneur, là, c'est parce que là, le verdict va tomber, puis ça s'en vient, là. Hein? Puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, finalement, il est au bout de sa corde à se faire descendre. Seigneur, c'est parce que là, je pense que c'est peut-être un peu tard, tu sais. Là, même si la poulie bloque, ils vont scier la corde, ils vont faire quelque chose, là, c'est fini, là. Puis il se ramasse dans le fond de la fosse. Donc, c'est sûr, le texte n'a jamais parlé de ça. Mais me connaissant, je suis sûr qu'il y a plus d'une fois que j'aurais prié en disant, « Seigneur, agis. » Mais non, c'est seulement dans la fosse que la gueule des lions a été fermée et qu'a été épargnée. Même histoire avec ces trois chums. Ces trois chums, même chose aussi, se font, encore une fois, ils doivent prier la fameuse statue d'or, ils ne le font pas. Même chose, accusation, procès, la fournaise est chauffée 7 fois plus fort pour les pitcher dans le feu. Les gars qui les amènent pour être pitchés dans le feu meurent tellement que c'est trop chaud. Hey, moi, je suis sûr qu'eux, ils priaient depuis un méchant bout. Mais c'est rendu dans le feu qu'ils ont été sauvés. Fait que je vis présentement moi-même, personnellement, pour l'instant, un peu de fournaise. Et c'est une période qui est difficile. Mais en même temps, je sais que Dieu est au contrôle. Et c'est pour ça que je peux facilement me lever le matin, puis aller au travail pareil, parce que je sais qu'il est au contrôle. Et je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, ça va s'arrêter, puis on va sortir de là. Mais je pense que la prière va vous aider à avoir confiance en Dieu. Va vous aider à découvrir Dieu. Dieu va vous révéler des choses aussi pour dire, ben écoute, aie pas peur. Oui, je sais très bien que tu t'en vas dans une fosse, mais aie confiance, j'interviens et j'interviens bientôt. Peut-être tard pour toi, mais bientôt. J'aime beaucoup faire découvrir à mes enfants, l'efficacité de la prière, la force de la prière et comment Dieu est bon, Dieu nous écoute. Il n'est pas compliqué. Il nous aime. Il ne veut pas nous rendre des choses difficiles, mais il veut nous apprendre par contre. Et on voit Jésus comment il a dû apprendre, même Jésus a dû apprendre par la souffrance. Je pense que la souffrance est une nécessité pour l'humain. Est une nécessité pour moi, ou sinon je perdrais les pédales. Il est arrivé une occasion, il n'y a pas tellement. C'est arrivé il y a peut-être 4 ans avec mes enfants. J'avais ma fille Eden qui avait perdu, on ne le voit même pas sur l'image, tant mieux pour vous, une petite boucle d'oreille. Tu sais, les petites boucles d'oreilles, là, juste petit diamant là, avec une petite pointe, là. Et puis, on était à Louis-Pinard à l'époque, et puis le terrain était très grand, on a 100 pieds par 100 pieds, c'est un grand terrain. Et puis, Eden avait perdu sa petite boucle d'oreille. Alors, tout de suite, en tant que réaliste ingénieur que je suis, voyant la surface du terrain, la pelouse, la petitesse de l'objet, je savais très bien qu'on ne le retrouverait jamais, 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 c'était raté, là. C'est perdu tout de suite. Mais j'avais tout de suite mon idée en tête, je me suis dit, on va demander à Dieu, et Dieu va nous aider à trouver cette boucle d'oreille-là. Mais je ne l'ai pas dit à mes enfants, j'ai fait exprès. Parce que l'humain, on a le cœur tortueux. Hein? Souvent, quand on entend des choses magnifiques de la part de Dieu, le premier réflexe, en tout cas, que moi j'ai, là, je ne sais pas pour vous, moi, c'est de se dire, « Oups, j'aimerais vérifier les faits avant. » Alors, j'avais à cause de ça mon plan en tête, fait que j'ai dit à mes enfants, « Écoutez, on va la chercher. » Fait qu'ils étaient quand même, ils étaient un peu plus vieux que ça, parce qu'Eden devait avoir, d'après moi, 8 ans. Là, il a l'air d'avoir plus 4 ans environ. Ma mémoire, hein. Mais donc, j'ai dit, OK, on cherche. Fait qu'on a cherché. Peut-être 10 minutes. Je sais que les enfants, c'était vite, là. Peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, on en a cherché. On faisait le tour du terrain, puis tout ça, on le trouvait pas, bien sûr. Et puis, là, je dis aux enfants, écoutez, on va-tu la trouver? Ah non, on trouvera pas, Mais écoutez, on cherche encore, Je voulais être sûr qu'à un moment donné, ils arrivent au point que, sans aucun doute, on ne trouvera pas ce petit objet vu la grandeur du terrain et comment petit est l'objet. J'ai dit, bien écoutez, maintenant ça fonctionne, c'est parfait, on est rendu au bon moment pour prier. Simplement, prière très simple, rien de compliqué, pas de lumière, pas de danse, rien. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux nous aider à retrouver la boucle d'oreille d'Éden? Amen. Josué se retourne, ah, elle est là. Le point était marqué. Mais c'est pas le seul chose. Ça aurait pu être, oui, peut-être, ça aurait pu être un hasard. Mais c'est ça que je voulais marquer dans leur cœur. On va jusqu'au bout pour être sûr que là, vous êtes d'accord. Et puis là, Dieu, montre-toi. Un peu comme dans la fosse au lion et un peu comme dans la fournaise. Hey, dans la fournaise, c'était un fait incontestable. Même le roi, il dit, écoutez, j'en vois 4 dedans, j'en vois pas 3. Puis quand ils sortent, ils disent tout de suite, hey, même leurs vêtements ne sentent pas la fumée. Donc, Dieu, souvent, nous amène, je pense, au bout de l'épreuve pour montrer à quel point il intervient et que c'est lui qui intervient. Et c'est pas un malin plaisir de nous torturer, c'est simplement que il veut comme ça nous apprendre. Je pense qu'à travers tout ça, on doit avoir une notion très forte de comment Dieu il est. Il faut garder en tête de comment Dieu il est. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu me connaît mieux que moi-même. Dieu connaît mieux ce que j'ai besoin moi-même. Dieu connaît mieux mon entourage et connaît mieux qu'est-ce que mon entourage a besoin. Ça, c'est toute une première base sur laquelle il faut vraiment tout le temps s'asseoir au quotidien. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que Dieu connaît le futur et Dieu connaît les différents événements qu'il va y avoir dans ma vie et comment ma vie va être composée. Donc, il y a son identité, qui il est, il y a mon identité et mon contexte de vie. Il connaît ça beaucoup mieux que moi-même. Donc, à travers ça, Dieu arrive au long de toute ma vie de créer une harmonie parfaite, une symbiose, vraiment que toutes les pièces du casse-tête s'agencent pour créer en moi quelque chose que lui a décidé. Et pas qu'est-ce que moi j'ai décidé. Il a préparé vraiment une histoire de vie pour moi, il a préparé une histoire de vie pour toi, il a préparé une vie pour toi. Il n'a pas préparé une histoire de mort, il n'a pas préparé une histoire de tourment ou de trouble, mais vraiment un agencement parfait qui va faire que ça va être ta vie, ton histoire, et que tu vas devenir plus en plus à la manière que Christ veut que tu sois. Et vraiment, à travers une vie de prière, on découvre tout au long comment Dieu veut que je sois et aussi en même temps qui il est, la confiance qu'on peut avoir sur lui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a donc comme ça toute une science qui, nous, petits mortels, nous échappe, mais qu'à Dieu, ça ne lui échappe pas. Nous, on est remplis d'émotions, ou parfois d'écocentrisme. Parfois, on peut vivre des épreuves énormes, énormes, énormes. Il y a des personnes qui vivent des temps de guerre, des temps de famine, de la torture, etc. Donc, il y a des choses qui sont énormes. Et je n'ai pas la réponse pour tout le monde, c'est sûr. Mais Dieu, dans sa science, a quelque chose et une vie et un processus pour chacun de nous. Et c'est vraiment donc de lui faire confiance et de vouloir avancer dans son plan. J'arrive à mon point qui est le comment. Et on voit dans Matthieu 6, 5. Et tout le chapitre 6, en passant, il y a trois chapitres. Il y a Matthieu 6, Matthieu 21 et Marc 11, qui sont les endroits où est-ce que Jésus prend du temps pour enseigner sur la prière. On voit dans Matthieu 6, 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte. » On l'avait vu tantôt. « Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et là, s'ensuit la prière du Notre Père. Mais il y a vraiment une notion de confiance, de foi qui est reprise là-dedans. Et j'aime aussi la prière du Notre Père, une prière très simple qui est reprise par c'est une prière qui est très connue au Québec. Je ne veux pas parler trop non plus là-dessus, prendre trop de temps sur cette prière-là. Je vous encourage par contre à la prier. Souvent, en tant qu'évangélique, on la perd. Mais simplement, il y a différents points qui sont repris dedans. Et on voit aussi qu'elle est très simple. On voit aussi, j'aime la notion de « donne-nous notre pain quotidien ». J'ai pas besoin de me casser la tête, de voir tout ce que je pourrais demander et mon compte de taxes et mon compte d'Hydro-Québec et tout mon quotidien. Non, 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 c'est simplement, Seigneur, tu le sais ce que j'ai besoin. Tu sais. Est-ce que tu peux simplement prendre soin de mon quotidien? Est-ce que tu peux prendre soin juste d'aujourd'hui? Donc, cette chose-là, je trouve ça intéressante. Beaucoup de notions de pardon liées à la prière. On voit aussi même dans l'offrande, hein, quand il dit « t'amènes ton offrande », ben demande pardon à ton frère avant d'amener ton offrande. Même chose, notion de pardon qui semble très importante pour Jésus lorsque on prie. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc, cette notion de pardon est très présente. On le voit à plusieurs reprises. Il y a une autre notion qui est très, très importante dans la prière, c'est la notion de foi. Et je vous lis ce passage-là en premier et on en parlera après. Donc, la notion de foi est très importante. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Ce n'est pas la grandeur de ma foi qui fait la différence, mais la foi dans la grandeur de Dieu. Ce verset-là est pris dans un contexte très particulier. Hein? Je ne sais pas si... il y a eu juste avant ça, il y a eu l'épisode du figuier, où est-ce que Jésus maudit un arbre et puis l'arbre devient sec d'un coup et c'est les disciples qui lui font remarquer « Hey, l'arbre que tu as maudit, il est complètement mort. » Et c'est là que tout de suite, Jésus il dit « Ayez foi en Dieu. » Et je trouve ça intéressant. Et aussi, c'est le contexte, il ne faut pas oublier que dans 2 jours, il meurt, Jésus. Donc, il est avant de mourir. Ça fait déjà 3 ans qu'il leur montre comment il vit. Il vit une vie de sacrifice, une vie où est-ce qu'il pense aux autres, une vie où est-ce qu'il n'a pas de place pour reposer sa tête. J'arrive de 2 semaines du Brésil, et puis j'ai pris 16 fois l'avion en 16 jours, et pendant pas mal 16 jours, tu n'as pas beaucoup de place pour reposer ta tête. Tu es très, très, très challengé. Et plusieurs fois, ce petit bout de phrase m'est revenu en tête. Jésus n'avait pas de place pour reposer sa tête. Et c'est un moment qui me marquait plus un peu. Donc, c'est une période de vie vraiment importante pour Jésus. C'est son dernier moment. Et puis, il décide de leur dire ça là sur la prière. C'est repris dans d'autres fois, il leur parle aussi de la prière de la foi. Et la prière de la foi est une prière qui est importante. D'avoir la foi dans la prière, d'avoir la foi. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Premièrement, Jésus ne dit pas « Allez-y doucement quand vous priez. Hein. » Allez, pensez à moi là, un petit peu. Là. « Allez-y doucement, demandez-moi pas des choses trop grosses, trop extraordinaires. » Il commence avec une image de pataouf. Hey, dis à la montagne. Puis en passant, en Israël, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de montagnes. Il y avait plus des collines. Hein? Mais si tu dis à une montagne, jette-toi dans la mer, elle va le faire. Fait que Dieu, Jésus ne va pas avec le dos de la cuillère. Il ne commence pas avec une image douce, tranquille, etc. Il semble nous dire qu'il n'y a pas de limite. Mais clairement qu'il n'y a pas de limite. Et peut-être que tout de suite, les disciples ont des notions de dire hey, on va rechanger le relief palestinien, crée-moi ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Et je pense pourquoi Jésus leur a dit peut-être ça aussi, c'est parce qu'il y avait tout un historique avec Jésus. Ils avaient vu justement toute la souffrance, tout comment il voulait donner sa vie pour les autres et pas prier pour lui. Donc, je pense que la notion de prière n'a pas de limite, comme Jésus le dit là. On peut prier pour les choses les plus extraordinaires et les plus impensables, mais dans un esprit qui n'est pas égoïste, égocentrique. Il y a aussi une chose que je veux rajouter, cette prière-là, je trouve qu'elle a été peu prêchée, la prière de foi, pour parler de la prière de foi, elle est peu prêchée parce que justement, on aurait peur parfois justement de partir en peur. Tu sais, elle leur dit, écoutez, allez-y, sortez d'ici, là, puis changez le relief du Québec, renversez les montagnes. Non? Donc souvent, je pense qu'elle a été mal prêchée, elle a été mal abordée, elle a été un petit peu je ne sais pas comment l'expliquer, mais et donc ça fait que c'était une prière qui était un peu mise de côté. Mais pourtant, Jésus est très clair, il le met tout de suite au début, « Ayez foi en Dieu ». Et donc, on voit qu'il y a une notion de foi qui est très importante. « Tu le crois, ça va se faire ». Il y a un autre verset, j'ai un autre verset ensuite qui le dit. « Dans la tempête ». Hein, même chose aussi, Jésus à dernière minute, hein, qu'on disait tantôt, il y a la tempête et Jésus, lui, dort dans le bateau. Il est en arrière puis il dort. Je ne sais pas comment il a fait, là. J'ai souvent vu des photos des barques de l'époque puis on dirait que l'eau aurait comme... En tout cas, moi, de l'eau sur moi, j'aurais eu froid, je me serais réveillé, mais en tout cas, lui, il arrive à dormir. Il est dans le bateau, il dort et les disciples, je pense qu'ils ont l'air vraiment de ne pas vouloir le déranger. Ils sont intimidés. Hein, puis pourquoi? Parce qu'ils le réveillent, on dirait, comme à dernière minute en criant, tu sais. Donc, eux aussi, à un moment donné, ils disaient, écoute, il va se réveiller, ça brasse pas mal, oups, une petite vague sur lui, oups, là, il va se réveiller, mais non, il se réveille pas. Puis à la fin, finalement, rendu au bout de tout, là, les gars, ils explosent, c'est comme, hey, on va mourir, qu'est-ce que tu fais, t'es en train de dormir. Puis Jésus, lui, c'est plus l'inverse, ça a l'air de l'irriter, de le fâcher, et, parce qu'il dit même dans d'autres passages, il les traite d'incrédules, de pas croire. Puis il dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Et puis tout de suite, là, Jésus menace la tempête, « Tais-toi !» Et encore une fois, Jésus n'a pas commencé à dire, à reprendre l'exégèse au complet. Je dis, « Tais-toi, c'est fini, t'arrêtes là. » Puis, le calme arrive. Encore une fois, dans la simplicité de la prière, mais d'une prière avec foi, avec confiance, avec fermeté. Une notion aussi, un verset qui me vient en tête, moi, c'est « Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Quand je pense à cette prière de foi, c'est ça aussi qui me vient en tête. Ensuite, une autre chose que je veux voir avec vous, c'est le même passage de Marc 11. Vous voyez, depuis tantôt, là, j'ai lu Marc 11 plusieurs fois écrit. Et puis, dans Marc 11, c'est la fois où donc, Jésus arrive dans le temple. Et puis, toujours, il vient d'être crié « Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David qui vient, etc. » Donc, le peuple juif veut le remettre, veut le faire roi. Et puis, comme je vous dis, deux jours après, la même foule l'amène à la croix, le crucifie à la croix. On voit un peu, là, justement, le côté humain, où est-ce qu'un jour, ça peut être tout blanc, le lendemain, tout noir. Nos résolutions, parfois, on peut avoir des très fortes résolutions. Ah, je vais me mettre à prier ou je vais me mettre à évangéliser. Et puis, nos résolutions, souvent, prennent une journée et puis le lendemain, revirent de bord. Et ça, c'est un peu la fragilité de l'humain. Et puis, donc, il fait ce fouet-là, et puis il fouette, je pense pas qu'il fouette nécessairement les gens, mais en tout cas, il renverse les tables, l'argent tombe par terre, il empêche les gens de transporter des objets dans le temple. Et puis, il dit ça. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup, et c'est ce que je pense le plus à cœur. Benoît m'avait demandé « c'est quoi que tu as à cœur de donner à l'Église? Qu'est-ce que tu veux communiquer aux gens? » Et sous le coup, j'arrivais pas à lui répondre parce que, encore une fois, mes idées sont souvent chamboulées. Mais s'il y a quelque chose ce matin que je veux vous transmettre, c'est ça, que ma maison soit appelée une maison de prière. Est-ce que ça serait pas quelque chose de désaltérant? Quelque chose de désaltérant si notre église à Trois-Rivières était une maison de prière. Et j'aime la notion pour toutes les nations. C'était une insulte pour les Juifs en passant ça, pour toutes les nations. Parce que c'était juste pour les Juifs. Mais nous ici à l'église, on a plusieurs couleurs, on a plusieurs origines. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais à cœur, d'être une maison de prière, qu'on soit reconnu pour une maison de prière. Ce texte a été repris par Jésus dans Ésaïe. Et regardez, Ésaïe va encore un peu plus loin, j'aime ça, écoutez ça. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Est-ce que vous n'avez pas soif de joie? Soif de rencontrer Jésus, Jésus le prince de la paix? Il n'y a aucune autre divinité que ce nom-là, hein? Vous irez en Inde, chez les hindouistes, chez les musulmans. Les musulmans ont 99 noms pour Allah, mais ils n'ont pas le mot amour. Ils n'ont pas de notion de mot amour, mais ils n'ont pas non plus une notion de paix. Jésus est le prince de la paix. Qu'est-ce que vous diriez si on allait plus souvent aller voir Jésus? Si en Église, on était plus une maison de prière pour aller chercher les joies que Dieu a pour nous, la paix que Jésus a pour nous. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. La prière sert vraiment à l'avancement du royaume. C'est par la prière qu'on trouve la paix. C'est par la prière qu'on renverse des murailles. C'est, je pense, quelque chose que Dieu nous appelle à nous dédier. J'arrive à ma conclusion, mais elle est un peu longue. J'aime 1 Timothée 2. Alors, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit à Timothée, qui l'enseigne comment travailler dans son église, et lui dit ça. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. » Et c'est vraiment cette notion-là, « avant toute chose, allons en prière. » « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, je vous propose une chose, c'est de ramer tous dans le même sens. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. On est à Villejoie. Il y avait un grand canot, on est 25 dedans. Et on se met à ramer tous, et c'est incroyable comment on a une force à tous être avec, comme dans Astérix Obélix, un gars avec un tam-tam en arrière, puis là, on est tous dans le même rythme, puis on avance tous comme ça, et on rame dans le même sens. Si un jour vous faites ça, amusez-vous à faire quelque chose. À un moment donné, arrêtez, mais laissez votre âme tremper dedans. Vous avez une idée de ce que ça fait? C'est fou comment une personne qui trempe sa rame puis qui la laisse là bien coincée, qu'est-ce que les 24 autres vont penser de lui? Puis en général, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es assis sur le bord, puis là, tu trempes ta rame puis tu la coinces là comme il faut. Qu'est-ce que le bateau va faire? Il tourne en rond. Qu'est-ce que vous diriez si vraiment on mettait un effort sur la prière, tout le monde? Et comme on dit, il y a une expression qui dit, on s'amuse pas à faire la route n'importe où. On fait la route souvent où est-ce qu'il y a déjà des traces de chevaux. Il y a des traces de chevaux, bien sûrement que le monde passe souvent là, fait qu'on va faire une route là. Peut-être un premier début, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un premier début, ça fait quelques fois qu'on en parlait à 9h le matin. Le dimanche matin, on a un temps de prière en bas. Vous pouvez le faire chez vous. Ce n'est pas tout d'un coup parce que vous êtes ici à 9h le matin que ça va changer quelque chose. Vous pouvez le faire chez vous tout seul. Dieu n'a pas de limite. Mais si vous voulez, en général, pas mal souvent, je suis là à 9h le matin en bas, à l'école, dans une des classes d'école de dimanche à prier. Si vous voulez, on pourrait être là, tous ensemble, pour pouvoir ramer. Ramer ensemble dans le même sens. Et si vous vous dites, écoutez, moi je me sens pas un super prieur, un super cœur de prieur. John Bunyan lui disait ça, dans la prière, il est préférable d'avoir un cœur sans parole que des mots sans cœur. Donc, même si vous venez à 9h le matin, écoutez, si vous arrivez à 9h10, là, vous rentrez discrètement, il n'y a pas de problème, pas besoin d'être à 9h01 ici. Mais vous rentrez là, moi ça ne me dérange pas si la personne est là, prie pas, ne dit rien. Qu'est-ce qui est important, je pense, c'est qu'on ait un cœur qui soit là pour pouvoir aller vers Dieu. Donc, c'est une invitation qui vous est lancée. J'aimerais maintenant simplement vous inviter à courber la tête et je vais vous inviter à prier avec moi. Et je veux faire un peu comme Benoît fait, simplement vous inviter à répéter ces paroles dans votre cœur. Et je vais essayer de les dire lentement aussi, que vous puissiez avoir le temps d'ajouter parfois. Parfois, on veut ajouter nos propres mots. Parfois, on veut ajouter notre saveur. Alors, n'hésitez pas à le faire. Mais je vous invite simplement à venir auprès de Jésus, parce qu'avec lui, on est en paix. Jésus ne veut pas vous rajouter ce matin un fardeau. Jésus veut simplement vous encourager à aller vers lui, parce que lui, il va vous donner la joie et la paix. Seigneur Jésus, tu es le Maître. Tu connais tout de moi. Je ne peux rien te cacher. Je te demande pardon pour mes fautes que je commets si souvent. Est-ce que tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Jésus, j'aimerais te parler plus souvent. Est-ce que tu peux m'aider cette semaine, s'il te plaît? Peut-être ce soir, peut-être le matin. Est-ce que tu peux m'aider à te parler? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, renouveler en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. S'il te plaît, dans ta grâce, brise les liens, les chaînes avec lesquelles l'ennemi essaye de m'emprisonner. Libère-moi, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Parce que à ta croix, tu as tout payé. Tu as payé l'entièreté du prix. Et tu as eu la victoire sur l'ennemi. Accorde-moi ta paix, toi qui es le prince de la paix. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, pour notre Église, c'est ce que je souhaite, Seigneur, que ta maison, Seigneur, soit une maison de prière. Travaille nos cœurs, sois dans nos foyers, repousse l'ennemi, et que ton peuple puisse découvrir à nouveau, te découvrir à nouveau. Crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé pour accomplir ta volonté. Sois le maître pour que ton peuple soit un en toi. Accorde-nous dans ta grâce de la ferveur pour la prière, et que ta maison, Seigneur, soit une maison de prière. Et je vous laisse sur les paroles de Martin Luther King, dans une prière inaugurale. C'est aussi une autre sorte, une autre forme de prière. Et que Dieu vous accompagne cette semaine. C'est avec plaisir que je vous ai parlé ce matin. Amen.